Vous êtes militant France Insoumise et vous êtes aussi médecin. Vous êtes en quelque sorte un spécialiste santé à Marseille. On parle beaucoup de la Timone, de l'hôpital Nord, mais peu des hôpitaux Sud. Alors, est-ce que les hôpitaux Sud sont ouverts pour tout le monde et quelle médecine ils pratiquent ?
Alors, évidemment, les hôpitaux Sud sont des hôpitaux publics. On parle de l'hôpital Sainte-Marguerite et Salvator. Donc, ils accueillent tout le monde. La spécificité qu'ils ont, c'est que les urgences leur ont été retirées depuis 2014 et ont dérivé une partie de l'activité vers les hôpitaux-centres, déjà. Donc, il y avait déjà cette idée-là de réduire l'activité sur les hôpitaux sud et qui, visiblement, aujourd'hui, va atteindre son paroxysme dans les prochaines années puisqu'on parle de la fermeture de l'hôpital Salvator l'année prochaine et de celle de Sainte-Marguerite en 2022. Ce qui serait une catastrophe parce que ça laisse un bassin de 300 000 personnes sans service public de santé.
J'imagine que ce sont des mesures d'économie. Est-ce que c'est vraiment quelque chose contre lequel on ne peut rien faire ?
Alors évidemment, on peut toujours faire quelque chose. Donc ça, ce plan-là, il est inclus dans le plan Copermo, c'est-à-dire en fait le rattrapage de la dette ou d'une partie de la dette par l'État de la PHM. En sachant que cette dette, au départ, est illégitime. C'est bien parce que l'État ne veut plus financer et demande aux hôpitaux d'aller se subventionner auprès d'organismes privés, de banques privées, qu'il y a une dette avec ses intérêts. Donc il y a une dette là de près d'un milliard, et l'État accepte de financer des travaux de rénovation sur les vieux bâtiments de la Timone et de Nord, à condition de faire des économies à la PHM. Et ça va se traduire par la fermeture des hôpitaux sud, en premier lieu.
Alors, on parle aussi d'une meilleure liaison entre les médecins libéraux de ville et l'hôpital. Vous êtes médecin de ville, justement. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, cette liaison, il est important de l'améliorer. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le faire, quoi. Là, aujourd'hui, on enlève tous les moyens aux hôpitaux de gérer les problèmes qu'un médecin de ville ne peut pas gérer lui-même. Il n'a pas les moyens de le faire. Il n'a pas un laboratoire à disposition tout de suite. Il n'a pas forcément l'imagerie. Quand une personne présente quelque chose de plus sérieux, on est obligé de l'envoyer à l'hôpital. Or, aujourd'hui, on est en train de retirer aux hôpitaux cette capacité. Et on dit, faites une meilleure liaison. C'est juste, on marche sur la tête.
Vous venez de finir vos études de médecine. Ce qui est important à l'hôpital public, c'est qu'il s'agit d'un centre hospitalier universitaire, c'est-à-dire qui forme les nouveaux médecins, les jeunes médecins. Qu'est-ce que vous pensez de cette formation ?
Alors, c'est une formation qui a le mérite d'être collégiale. On est toujours suivi et aidé par nos anciens, nos pères. Le problème, c'est peut-être qu'aujourd'hui, elle est tellement centralisée sur ces centres hospitaliers universitaires qu'on a toute une partie de notre activité. Par exemple, pour la moitié des médecins en formation, ils seront généralistes, puisque c'est celle-là qui a les postes. Or, dans notre cursus, moi, j'ai fait 6 mois de médecine générale sur 10 ans d'études. Donc il y a quand même là un petit problème dans la centralisation sur le centre hospitalo-universitaire qui a une activité bien particulière, qui va être même une activité différente de celle des autres hôpitaux publics puisque souvent c'est des centres de recherche, etc. Et donc on a toute une partie du cursus qui est concentrée là-dessus et qui ne nous permet pas de voir ce qu'il y a comme autre forme d'activité en médecine.
On dit souvent qu'on manque de médecins, on nous parle même de désertification médicale. Qu'en est-il ?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème de la désertification médicale n'a qu'une seule cause, c'est la démographie médicale, c'est-à-dire qu'on ne forme plus assez de médecins. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que ça dure. En fait, il y a un numerus clausus qui permet de limiter le nombre de gens qui vont être formés à la médecine. Et ce numerus clausus a été tellement serré la vis pendant 30 ans qu'on se retrouve aujourd'hui avec une situation ubuesque où près de la moitié des praticiens français ont plus de 55 ans. Et en comptant les étudiants en formation, ce qui veut dire qu'en fait on ne sera jamais assez nombreux pour les remplacer. Et donc quand on présente les problèmes de désertification médicale comme si les jeunes ne voulaient pas s'installer, ne voulaient pas travailler, etc., c'est une fumisterie. En réalité, on n'est juste pas assez nombreux pour les remplacer.
Alors, on parle aussi d'un manque à venir de chirurgiens.
Effectivement, alors on touche un peu au même problème, c'est-à-dire qu'il y a un problème au départ de démographie, Et ensuite, il y a une situation complètement folle pour les chirurgiens, mais pas que, c'est que non seulement ils ont un tronc commun de 6 ans, ensuite ils ont un internat de 5 ans, donc ça fait 11 ans de formation. Et une fois qu'ils sont arrivés au bout de ces 11 ans, qu'ils sont thésés, qu'ils sont docteurs, pour pouvoir s'installer quelque part, faire leur propre activité, ils doivent faire 2 ans de plus à l'hôpital, ce qu'on appelle un assistanat. Or, aujourd'hui, les hôpitaux publics n'ont pas les postes, parce qu'on ne leur donne pas les financements. Donc, il n'y a pas assez de postes par rapport au nombre de chirurgiens entrants, ce qui fait qu'ils se retrouvent encore à attendre 1, 2, 3 ans sans pouvoir s'installer, simplement parce qu'ils attendent de pouvoir faire ces 2 ans de plus à l'hôpital.
L'hôpital en France, il est public, il est privé à but non lucratif et il est privé. D'autre part, le gouvernement avance qu'il va réformer le paiement à l'acte pour en fait, là aussi, faire peut-être des économies. Il y a peut-être des coopérations à faire entre les uns et les autres, notamment je pense au privé non lucratif. Quelle est votre position ?
Alors, par rapport au paiement à l'acte, j'attends de voir ce qui va en être dans les faits. Alors effectivement, ça a été une annonce du gouvernement. Si c'est le cas, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose, puisque de toute façon, on sait que cette tarification à l'activité a une tendance à créer de l'inflation de soins. C'est-à-dire que un service pour se financer va avoir tendance à faire des soins et à raccourcir les durées de séjour pour pouvoir faire de nouvelles entrées, de nouvelles activités et pouvoir financer tout simplement son service.
Et moins de prévention.
Et moins de prévention. Maintenant, c'est comment on le remplace et par quoi. Si on crée un forfait, ça peut convenir à certaines formes d'activité. Typiquement, ça va être toutes les maladies chroniques, tous les patients atteints de maladies chroniques, ça peut fonctionner. Mais il y a d'autres activités où c'est pas possible. Si vous faites de l'imagerie, là, on peut pas faire un forfait. Ça n'a pas de sens. Donc l'effet d'annonce est là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? On n'a aucune information là-dessus, on ne sait pas ce que ça va donner, parce que du coup, ça modifie toute la pratique de tous les médecins. Quand vous changez le mode de financement, ça change absolument tout dans un service. Donc là, on est complètement dans le flou et on attend de voir un peu.
Vous avez été concerté ? Vous n'avez pas été concerté ?
Non, pour le moment, à ma connaissance, il n'y a eu aucune concertation. Il y a juste cette annonce, mais on n'en sait pas plus.
Alors enfin, pour finir, je reviens sur ma question d'une coopération avec le privé non lucratif. Est-ce que vous l'envisagez ?
Entre le public et le privé non lucratif ? De fait, ça existe déjà, en fait. Quelles que soient les formes d'activité, qu'on soit dans le public ou dans le privé, lucratif ou non lucratif, il y a des dérivations de flux, des dérivations d'activité en fonction de qui peut gérer quoi. Les médecins, comme je disais, dans la formation sont habitués à travailler en collégialité et de fait, quand ils ne peuvent pas faire eux-mêmes dans leur structure quelque chose, ils vont la renvoyer sur une autre, si possible, quand on est dans le public, vers le public, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'activités qui a disparu du public, là, ou quasiment disparu. La psychiatrie, on a perdu, ils ont vidé tous les lits d'hospitalisation publique, et la quasi-totalité de l'activité se retrouve dans le privé, et il reste dans le public que les choses très difficiles à gérer, qu'on ne pourrait pas gérer dans le privé, parce que ce n'est pas des structures adaptées, on cherche une rentabilité, on cherche une forme d'actes qu'on peut répéter, qui ne sont pas très compliqués à gérer, alors que dans le public, on va se retrouver à gérer de plus en plus de choses complexes.